On va continuer notre discours sur le discours du roi Jésus. Et vous voyez, dans la symétrie de notre série, les bénédictions des disciples, les témoignages des disciples, la justice du disciple, la religion du disciple, la vie dans la société du disciple. Bon, c'est peut-être mieux de dire le disciple dans la société ou... Je ne sais pas, mais ça, la symétrie reste, c'est pas mal. J'aime bien. La vie du disciple dans la société, peut-être c'est mieux dire. Nous allons lire un texte de chapitre 6 dans un instant. Et on peut passer peut-être juste avant de le lire. Ah ! Ce matin, je voulais juste soulever une question. C'est comment on peut concevoir la structure du serment sur la montagne. D'accord ? Il y a une logique interne à ce texte. Et c'est plutôt que, comme un gage, je pense, au repas. Alors, comme j'ai déjà évoqué une fois, avec les béatitudes, par exemple, on a une tranche du pain, jambon, tomate, parfois salade, et ensuite une autre tranche, n'est-ce pas, de pain. Alors, on va passer à voir, en fait, comment on peut concevoir le texte. Alors, il y a déjà des repères dans le texte qui peuvent vous aider dans le sermon sur la montagne, trois chapitres. Si vous regardez, il y a ces deux choses qui sont marquées. D'abord, si vous lisez avec moi, un texte très important dans le sermon sur la montagne concerne le rôle de la loi et les prophètes. Verset 17 de chapitre 5. « Ne pensez pas, Jésus dit, que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Les lois et les prophètes. La nouvelle alliance arrive avec Jésus. Mais il y a encore, vers la fin de ce sermon, on va lire en fait ce matin, je rappelle pour Samuel qui va la lire dans un instant, verset 12. Quand il résume la justice d'un disciple de Jésus, il dit ceci, chapitre 7, verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. Jésus accomplit la loi et les prophètes. Vous aussi, vous allez accomplir la loi et les prophètes avec cette règle d'or, comme c'est connu dans la société, je crois. C'est encore assez connu comme règle d'or. Oui, c'est bien. Alors, on va passer à... Ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir... Et on va voir ça demain. Le texte du sermon sur la montagne commence aussi, comme j'ai dit, avec un sandwich, les tranches du pain, les bénédictions, mais aussi il y a des avertissements. C'est-à-dire, il y a une section qu'on va voir demain où Jésus bénit, mais aussi il nous avertit. Il y a cette symétrie. Et ensuite, au milieu... Jambon, tomate, c'est bien. Alors, excuse la mise en forme, mais c'est ton ordinateur Apple, il faut un PC. On parle beaucoup, n'est-ce pas, de la vie d'un disciple. La loi et la justice, on a déjà vu, la religion, et ce matin aussi la vie dans la société. Il y a peut-être trois grands thèmes sur la justice du disciple qui peuvent être résumés de cette manière. C'est un peu le centre. C'est là où Jésus met le paquet sur ce qu'il veut changer dans notre vie. Vous voyez ça? Alors, ça donne une idée de la structure pour avoir une vue d'ensemble. Pour certains, ça nous aide. Pour d'autres, ils disent, bon, de toute façon, c'est la mise en pratique. Et vous avez raison. Nous allons maintenant lire cette dernière partie, la vie dans la société et la transition vers des avertissements, parce qu'il y a 1 à 12. Merci Samuel, si tu veux lire cette partie pour nous.
Tu peux soulever la Bible.
Allez, collez. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres ? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements ? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurera qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment dis-tu à ton frère, « Laisse-moi ôter la paille de ton œil alors que dans ton œil il y a une poutre ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent ?
C'est très important pour le message. De quoi parle-t-on ce matin ? Ben, y a dans le plan du livret, encore, il faut le chercher. C'est la page, pour certains, 10, bon, 17 et 18 pour d'autres. Vous avez, en fait, un travail, la vie dans la société des disciples, observation. Bon, on va faire ça assez rapidement, juste parce que quand on lit chapitre 6 et chapitre 7, 1 à 12, je ne vais pas en fait traiter 1 à 12. C'était un peu trop pour une matinée. On va juste traiter le thème. Mais il y a une possibilité de structure. Quelle est la place de 1 à 12 ? Parfois, ça pose des questions pour des personnes. Quelle est la place ? Ça semble un peu hors contexte. Mais il y a une proposition là qu'il y a un parallélisme entre les deux thèmes, aimer son argent, aimer son prochain. Il y a une exhortation, ensuite deux paraboles dans les deux parties et un encouragement à la fin. Alors ça c'est dans le livret, si vous cherchez la structure, quelle est la place de 1 à 12. Mais passons, parce que la chose importante c'est le thème de l'argent. Alors, s'il me semble très important, c'est pour moi de prendre mon portefeuille et de le poser ici, avec sa carte de crédit, avec pas beaucoup d'euros. J'ai dépensé sur les livres, c'est très bien. Non, ça, c'est pas encore vrai, mais... Et nous allons traiter le thème de l'argent. Je vais en revenir. Pourquoi il est important de mettre l'argent à sa place? Alors, revenons à notre thème. Il y a, dans mon histoire de formation, un moment important quand j'ai commencé à la fac. Et je dis souvent, je suis juriste, mais en fait, dans les pays anglophones, on peut faire un double diplôme. C'est-à-dire, j'ai fait une école de commerce, à peu près ce que vous faites ici, et aussi une fac de droit. Et je me souviens de mon premier cours dans cette école, et en fait, c'était pas mal. Au moins, il y avait un bon accroche. J'espère que ça sera un bon accroche pour vous ce matin. Je me souviens, j'étais dans un grand amphi, et le prof, il a décidé de nous interpeller sur le thème, évidemment, l'argent. On est dans une école de commerce, on va en parler. Et le prof nous a fait écouter une tube de l'époque, alors de mon époque, hein, un chant écrit par un groupe célèbre de rock, Pink Floyd. Et voilà, je savais Nathan avait du goût. Je vais traduire les premières paroles que j'ai entendues à l'école de commerce. Money! Get away! On va chanter. Je vais les traduire, c'est peut-être mieux. L'argent, il est vraiment cool. Prenez cet argent avec les deux mains et en faire un pile. Nouvelle voiture, caviar, rêve de 4 étoiles. Je vais m'acheter une équipe de foot. Et le chant continue comme ça. Et ça fait rigoler, mais il y a quand même, à nos jours, des personnes qui peuvent se permettre d'acheter une équipe de foot. Et je peux vous dire, ça c'est un rêve de pas mal de gosses, et même jeunes hommes. Alors, c'est même possible, je suis très gentil ce matin, c'est même possible, vous rêvez de gagner de l'argent. C'est possible, même si vous avez peu de sous pendant les études à la fac, vous pensez déjà à ce que vous allez faire avec votre premier salaire. Vous allez gagner votre argent. Vous avez déjà en tête un peu un projet pour avoir réalisé vos rêves avec l'argent. Dans une société qui concocte les rêves d'argent, ça c'est du marketing. Pourquoi pas acheter une équipe de foot ? Dans un système économique libéral, l'ambition est de gagner beaucoup et avec une carte de crédit, de consommer encore beaucoup et même plus. Et dans un monde chaotique que la presse nous présente tous les jours, l'argent est présenté comme la clé pour garder une certaine sécurité face à tout ce qui se passe autour de nous. On va avancer. L'argent promet beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et dans ce contexte, je pense que ces paroles de Jésus célèbres résonnent encore aujourd'hui. Quelles paroles? Verset 12. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ce n'est pas maman, maman. Et c'est un mot un peu barbare parce qu'on ne peut pas le traduire. Jésus a choisi un mot parce que face au Dieu et créateur de toutes choses, tout ce que l'argent peut acheter, c'est Dieu qui a donné au départ. Il y a face à ce Dieu un concurrent, maman, une force divine. Il y a en fait deux dieux devant nous, lequel on va choisir. Jacques Ellul, un théologien français, a écrit ceci. « Dans la Bible, l'argent ne se réduit pas à la monnaie, ni à un métal précieux, et son aspect éthique n'est pas lié à sa propriété. Ce n'est pas simplement une chose. Jésus personnifie et divinise l'argent en disant « c'est du mammon ». L'argent est une puissance autonome, même spirituelle, et personnel, fait une partie du sacré. Entre l'argent et l'homme se noue une relation de maître à serviteur. L'argent est une puissance tentatrice, comme le montre la trahison de Judas. Voilà ce que Ellul a dit. Il ne faut pas se tromper à ce point-là. Jésus est maître, il sait mieux que nous comment vivre comme disciple. L'argent, mammon, est une divinité, selon Jésus, qui peut prendre contrôle de notre vie. Selon Éphésiens et aussi Colossiens, mais Éphésiens chapitre 5, verset 5, être avare est une façon d'adorer des idoles. On pense qu'on est plus éduqué, on a beaucoup progressé, mais nous avons encore des idoles. Et l'idole première dans le Nouveau Testament, c'est l'argent. C'est souvent le problème de la cupidité et non pas de l'idolâtrie simple qui guette l'homme occidental. Je vous dis, ce matin, vous avez un conseiller financier, gestion de patrimoine, Jésus, qui va nous aider à cheminer vers de bons investissements. Il y a trois astuces pour bien servir Dieu et non pas fléchir le genou à ce que j'ai ici. Il faut faire abstraction de nos biens, notre carte de crédit, nos investissements, pour dire voilà, je vais le maîtriser parce que je veux suivre Jésus. Voilà, on commence d'abord. Comment penser investir votre argent? Ça, c'est le premier point. On lit d'abord Jésus qui nous exhorte, ne vous amassez pas les richesses dans ce monde. Verset 19. Ne vous avez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Ne possédez pas beaucoup de richesses sur cette terre. Ce n'est pas un banquier qui va vous dire ça. Imaginez que dans ma poche, même si j'ai posé mon portefeuille ici, j'ai des milliers de dollars, ok, d'euros pour vous, des rouleaux de notes. Je n'ai pas de place dans cette poche, j'ai dans les deux. Mes investissements ont bien payé récemment. En Australie, il y avait de bons retours. Et je sors ce soir, vous voulez venir? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent que j'ai dans mes poches? Des idées? Boire, ciné? Bon. Voilà, ça c'est un peu d'imagination. Mais maintenant, imagine qu'on peut faire beaucoup avec, mais je n'ai pas dit. En fait, cet argent, c'est l'argent de Monopoly. Ah là, vous êtes un peu déçus. En bas, quand même, mais... Je ne peux même pas acheter un café avec. Vous êtes d'accord? De la même manière, l'argent sur Terre vaut autant. Il ne vaut pas d'en posséder beaucoup. Jésus nous donne quatre raisons pourquoi nous ne devrions pas accumuler, amasser ces sous qui valent rien. La première raison, c'est verset 19. Cet argent est comme de la pourriture. Les richesses accumulées sur terre ne durent pas. C'est de la pourriture. Même au point d'achat, on sait c'est pourri. Les mythes mangent vos pulls. Vous regardez mes pulls, vous verrez. La rouille détruit votre récolte, les voleurs littéralement, ils n'ont plus à la fin. Jésus parle ici des gens qui sont des voleurs. Mais en fait, le mot c'est ceux qui creusent, qui en fait sont des voleurs. Parce qu'à l'époque, comment garder son argent? Ce n'était pas à la banque. On gardait, au lieu de garder des sous, la richesse et des investissements dans la forme de tissus, des céréales et de l'or. Et vous imaginez Jésus en train de dire, en fait, les voleurs, ils passent dessous le mur, les voleurs, pour prendre tout ce qu'on pense qu'on a gardé. On pense qu'on peut avoir beaucoup, mais en fait, tout a disparu à notre grande surprise. Aujourd'hui, nous gardons nos richesses en forme d'euros. Et Jésus ne veut pas que son disciple soit déçu en regardant à la fin de notre vie, on n'a rien. Ne pensez pas investir dans les richesses de ce monde, car ils sont pourris. Deuxième chose, l'éternité. Verset 20. Si vous regardez verset 20, est-ce que c'est ça, monsieur? Ok, amasser des trésors dans le ciel, c'est ça. Il faut penser plus loin. Il faut penser à l'éternité. Notre objectif est d'amasser des richesses de l'éternité dans le ciel. C'est ça, cet argent qui va rester cette vie et aussi la vie à venir. Par la grâce abondante de Jésus, lui est devenu pauvre à la croix pour que nous soyons pardonnés. Et comme Michael a aussi prié, nous avons la vie éternelle, la relation avec Dieu et tout ce qui va avec pour l'éternité. Jésus est devenu pauvre pour que nous soyons riches. Et c'est là où nous sommes vraiment des milliardaires. Nous vivons pour cette vie éternelle, n'est-ce pas? Dieu veut qu'on fixe notre objectif d'investissement sur l'éternité. Nous faisons des activités sur terre qui, je ne sais pas si vous le faites déjà, qui constituent des dépôts pour l'éternité. Pour acheter une maison, une voiture et autre chose, on fait des dépôts. Obtenir des richesses, c'est notre objectif qui seront utiles pour l'éternité. Martin Luther a dit ceci pour bien fixer notre idée sur l'objectif de vie. Nous gagnons de l'argent avec un objectif, afin de répondre aux autres. Nous vivons pour faire plaisir éternellement à Dieu et non pour l'approbation de la société. Pensons à l'exemple d'un certain homme riche dans Luc chapitre 16. Un homme riche qui n'avait même pas de nom parce qu'il ne valait rien aux yeux de Dieu, qui avait un pauvre Lazare à sa porte. Et pendant toute sa vie, il passait devant Lazare. Il pensait qu'il allait investir son argent, mais en fait, il a perdu tout. Il est allé en enfer, parce qu'il n'a pas pensé à l'éternité. Il passait de côté de ce qui était vraiment important. Le disciple a comme objectif d'accumuler des richesses éternelles. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, n'amassez pas des billets de Monopoly. Luther dit, servir les autres, c'est la manière d'investir dans l'éternité. Il y a aussi un autre conseil de Jésus, verset 21. Pourquoi ne devrions pas accumuler ou amasser des sous? Il dit, il y a un problème, mes amis. L'argent a tendance à se coller à notre cœur. C'est-à-dire, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et l'argent est comme un aimant. Vous savez ce que c'est un aimant? Il y a une force invisible, mais forte, qui colle un objet avec un autre. Ben, le trésor sur cette terre est comme un aimant qui attire et domine le cœur par une force invisible. Quelque chose de spirituel arrive dans la vie des hommes où on ne peut pas se détacher facilement de notre désir d'avoir plus en plus d'argent, de plaisir, de sécurité sur terre. Pourquoi ça arrive? Ben, Jésus nous dit, attention, il y a cette force, notre égoïsme finalement. L'égoïsme, c'est je veux mon argent. J'ai travaillé, alors c'est mon salaire. C'est intéressant, il y a toujours ce pronom quand on parle de nos investissements. Ce ne sont pas des investissements que Dieu nous a prêtés, mais c'est mon argent. Il y a cet attachement. Et là, on a un avertissement. Mais si tu valorises les choses éternelles, le service des autres, ce n'est pas mon argent, mais ce que je peux faire avec l'argent de Dieu pour les autres, n'est-ce pas? Ça, c'est la façon de décoller l'argent et de moi.
Moi, j'achète les ordinateurs portables.
Peut-être vous avez d'autres choses à regarder dans
la pub.
Qu'est-ce que c'est?
Téléphone dernier prix.
Le bon travail, parce que vous avez bien travaillé. Vous allez partout où vous pouvez avoir la sécurité, l'argent, acheter peut-être un appart. Ça, c'est la façon de s'attacher à des choses sur terre. Quel gâchis. Les choses ne durent pas. mais les gens, oui. Et votre service est un argent éternel. Il y a la quatrième raison pourquoi nous ne devrions pas amasser des sous, verset 24. L'impossibilité. Et là, on a vraiment affaire avec une question tellement contemporaine. C'est, on veut tout avoir. La société de consommation, c'est que vous n'avez pas un choix à faire. C'est toujours consommer plus. Mais Jésus dit, il est impossible, si je peux le dire de cette manière, il est impossible de chercher à faire votre vie et votre confort ici sur terre et servir Dieu. L'argent et Dieu sont deux choses impossibles comme objectif de vie. Nous serons quelque part des pauvres, toujours pauvres sur cette terre, mais riches au ciel. Il est très difficile de séparer les deux parce qu'on veut tout avoir. On ne veut pas faire des choix. On ne veut pas fixer des priorités. On pense que Dieu est bon, il peut tout faire. Il peut tout faire. Mais il veut que notre cœur soit attaché à lui. Et c'est impossible d'avoir aussi un attachement à l'argent. Il y a deux paraboles qui racontent l'œil, versets 22 et 23. Et un peu plus loin, c'est quelle parabole? Vous êtes encore avec moi, il faut tourner la page. L'esclavage. Versets 22 et 23, on va le lire. C'est un peu bizarre, si vous êtes peut-être scientifique, de comprendre comment il comprend cette biologie, si je peux le dire de cette manière. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'œil est le membre qui donne la perspective sur la vie et le monde autour. Cette parabole de l'œil attire notre attention sur notre perspective sur la vie. Faites attention. L'œil attire notre attention sur des choses importantes. Comment penser investir son argent? Il faut avoir une attitude claire, voir clairement. Il y a une deuxième parabole, l'esclavage, verset 24. Faisons partie de la création de Dieu, nous sommes faits pour le servir. Mais qui est notre maître? J'aime bien aussi Bob Dylan. Il a écrit un chant, « You got to serve somebody ». Je ne vais pas le chanter. Vous devez servir quelqu'un. Est-ce que nous sommes dans un état d'esclavage de l'argent, des richesses pourries, ou est-ce qu'on se donne au service de Jésus? Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur terre. L'argent terrestre est comme de l'argent de Monopoly. On passe maintenant, en quoi allez-vous vous investir? Là, c'est la partie verset 25 à 33. Et c'est très connu. Cherchez d'abord la justice et le royaume de Dieu. Et tout cela, c'est quoi le tout cela? Vous serez donné par-dessus. On va voir. Mais c'est intéressant, on cite souvent ce texte. Cherchez d'abord son royaume et sa justice. Mais le contexte, c'est tout l'attachement à l'argent. Sous-texte ici, ce que Jésus veut souligner, c'est « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Je vous ai dit, le monde de cette terre, c'est comme de l'argent de Monopoly. Excuse-moi, l'argent de cette terre est comme de Monopoly. » Mais il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a dit « J'ai aussi des encouragements. Je vais pourvoir à vos besoins. Vous comptez sur moi et cherchez d'abord le royaume. » Les besoins matériels sont réels, selon Jésus. Nous ne sommes pas des bouddhistes qui font abstraction ou des mystiques qui décident de devenir ascétiques. Nous avons un corps, nous avons besoin de manger, de boire et de porter des vêtements et d'avoir un abri. Dieu nous dit, je peux pourvoir à vos besoins. Il y a d'abord la providence de Dieu qui est soulignée dans versets 25 à 31. Au lieu d'avoir la tête dans le guidon, courir, acheter, gagner plus, mettre au boulot dodo, lever la tête, regarder dans les champs, comme ici. Il faut se balader un peu, écouter les oiseaux, regarder les champs. Verset 28. Pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni le fil. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, c'était l'homme le plus riche du monde, à Bill Gates de son époque, il n'avait rien comparable à ce que Dieu a pourvu pour ses champs. Dieu pourvoit à ses créatures, à toute la création. La foi que Dieu est créateur est très importante dans ce domaine. Le problème parfois quand on parle de la création, c'est un peu les origines. Mais ce qui est important aussi, c'est la providence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a pas simplement démarré la création. À chaque jour, on se lève, il pourvoit à cette création. Il est présent dans la création. Il est généreux. À chaque matin, on se lève et nous sommes encore en vie. Le soleil se lève, il y a de la lumière. Il y a de quoi manger sur la terre. Il y a des inégalités, c'est sûr, mais Dieu pourvoit à toute sa création. Est-ce qu'on peut compter sur Dieu, même si on a peu? Oui. Peut-être pas pour devenir Bill Gates, mais pour manger, boire, avoir les nécessités, Dieu pourvoit parce qu'il est bon. Il est le Dieu de providence. C'est un mot très important. Non seulement la création, mais la providence de Dieu qui pourvoit à chaque jour à sa création. Deuxième chose, c'est la souveraineté de notre Père. Parce que non seulement il pourvoit à toutes ses créations, il est aussi papa. Je suis son enfant. Verset 32. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Est-ce que vous croyez que Dieu sait à chaque matin de quoi vous avez besoin? Je suis avec, depuis 3 semaines, très béni par un étudiant, même un lycéen qui arrive du Pakistan. Il a dû quitter son pays. Il était persécuté. Il est arrivé à la gare de Strasbourg avec un sac. Il m'a raconté, on lisait la Bible, Matthieu 1 à 1, c'est super. Ce gars à 16 ans m'a appris à 56 ans ce qui était ici. Il a dit, le matin, je suis arrivé à la gare, j'avais rien. Je ne savais pas où j'allais dormir la nuit. J'avais de rien dans la poche pour manger de quoi faire. Le soir, il est arrivé, il était déjà dans une chambre, il avait un oreiller, un lit, il avait mangé un bon repas juste avant de se coucher. Il a commencé la journée en disant, « Mon papa ne m'a pas oublié. » J'ai trouvé ça émouvant. Dieu est notre papa. On n'a pas besoin de chercher la sécurité que des hommes pourvoient à nos besoins, ou la famille, ou un héritage. Qu'est-ce que je vais faire à ma retraite? Je peux vous dire, des équipiers ici, pour la retraite, on va tous squatter chez Johan. Ils sont courageux parce qu'ils comptent sur un papa qui les aime, mais vraiment dans la réalité de la vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. En quoi allez-vous maintenant vous investir? Si Dieu, dans sa bonté, prend soin de nous par sa providence, si Dieu, mon Père, sait de quoi j'ai besoin, et je peux prier chaque jour, donne-moi mon pain quotidien. Maintenant, je suis libéré et je peux concentrer sur les priorités de la vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. En quoi allez-vous vous investir maintenant? Il y a des bons plans que Jésus nous donne. C'est bien ça. Je vais expliquer peut-être d'abord avec, vous avez en niveau 3, l'histoire de l'Église. Oui. Il y a un responsable des premiers chrétiens, Origen. On dit cela? Origen. Origen, merci beaucoup. Au 3e siècle, il y avait cette remarque. Les chrétiens sont comme les échangeurs d'argent. C'est intéressant ça. Vous savez, à Paris, vous pouvez trouver des bureaux pour échanger votre argent. Ou vous pouvez aussi, parfois, certains d'entre vous, vous envoyer de l'argent chez la famille, n'est-ce pas? Mais il faut changer l'argent. Un chrétien a comme vocation de prendre le capital de ce monde et l'échanger pour la devise céleste. L'argent de cette terre, c'est la sécurité, la reconnaissance des possessions de dernier cri, des plaisirs et les loisirs. Évidemment, nous arrivons à la période des vacances. Mais il faut échanger cet argent pour l'argent éternel. Chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est annoncer le royaume de Dieu. Et je ne veux pas dire simplement qu'il faut faire un travail à plein temps comme coordinateur régional. C'est super, on veut bien vous accueillir. Mais simplement, prendre les décisions pour vous préparer le mieux possible à annoncer le royaume de Dieu. J'étais à Strasbourg pour un rassemblement des églises et il y avait deux étudiants de GBU. L'un était de Belfort et l'autre était Besançon. Ils se sont rencontrés. GBU garantit bonne union. Ils se sont mariés après. Ils sont maintenant des gens qui travaillent. Ils travaillent, ils gagnent bien leur vie. Mais on a discuté ensemble. Ils ont décidé de fixer des priorités. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Ils m'ont dit, ils vont se tester pour savoir s'ils peuvent travailler dans le ministère d'évangéliste. Pourquoi pas, même sans le GBU. Ils peuvent faire un stage dans une implantation d'église. Il y a certains étudiants, que je sache, ils peuvent déménager dans une zone où il y a besoin des kinés, des médecins, qui peuvent choisir le lieu de travail. Le choix de habitation, le choix de travail, le lieu des études peut être les priorités pour vos choix pour annoncer le royaume de Dieu. Et pourquoi pas aussi se tester comme stagiaire relais. Peut-être que ce n'est pas votre place à plein temps, mais prenez des risques de se tester maintenant. Parce que vous savez, quand vous avez 25, 30 ans, 35 ans, il y a d'autres choses qui limitent les choix pour se tester. Ce n'est pas pour dire « c'est dommage », mais vous avez la possibilité de se tester si vous pouvez annoncer l'Évangile et annoncer le royaume. D'abord, cherchez le royaume de Dieu. Ça prend des risques de prendre une année à part. Je sais des stagiaires relais, ils sont très courageux de dire « dans le cheminement, je vais prendre une année à part ». De partir dans le centre de la France, c'est un risque. Mais ils ont besoin des ouvriers. Se tester, prendre des risques, c'est exactement ça quand on veut fixer des priorités et chercher d'abord le royaume de Dieu. D'autres choses, et là je veux conclure, c'est la profanation de cette idole, l'argent. Il faut prendre distance. Et lui l'a dit ici, comment profaner un idole? Désacraliser. Élu a écrit ceci, Jacques Élu. Il faut en arriver à ramener l'argent à son très simple rôle d'instrument matériel. Lorsque l'argent n'est rien plus qu'un objet, lorsqu'il a perdu sa séduction, sa valeur éminente, sa grandeur surhumaine, alors nous pouvons l'utiliser comme un meuble quelconque. On peut le placer ici comme une table. On va déménager, nous, très bientôt. Il faut refaire un salon avec les meubles que nous avons. Bien entendu, si on peut cesser de craindre à ce moment, Il faut cependant rester très vigilant, très attentif, car la puissance n'est jamais totalement éliminée, comme vous voyez vos parents, comme vous voyez d'autres qui sont maintenant des jeunes ouvriers. L'argent colle à nos cœurs. Et le simple geste pour profaner cet argent, c'est quoi ? Le don. Le don, c'est je peux arriver à me débarrasser de cet argent. Et même mieux faire, c'est faire du bien aux autres. Faire du bien pour ceux qui travaillent. J'ai un collègue, même deux, je sais, ils travaillent pour le royaume de Dieu. Ils ont besoin de quelques étudiants qui peuvent donner 10 euros par mois. Le couple habite chez les parents. L'un cherche un boulot depuis un an. Vous savez ce qu'est. Mais tous les deux se donnent à annoncer l'évangile. Ils ont besoin de nos dons. Ils ont besoin qu'on puisse profaner cette idole pour que le royaume de Dieu soit annoncé. Je ne peux pas comprendre comment ils vont le faire. D'ici 2 semaines, à payer une dette qui n'était pas leur faute, mais qui est 6 mois de leur salaire, ils doivent payer ça la semaine prochaine. Je dis, mais ils n'ont jamais parlé aux autres de leurs besoins, mais ils font confiance à Dieu. Et nous pouvons faire un geste pour aider des ouvriers sur le champ. Si vous commencez maintenant à mettre de côté 10 euros, 20 euros par mois, vous avez déjà commencé à sacraliser, non pas sacraliser, profaner le don, profaner l'argent. Voilà. Je termine avec le texte où j'ai commencé. Ne vous amassez pas de trésors sous la terre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu.